Radio Classique, il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
Un nouveau journal avec Diane Berger.
Emmanuel Macron à Bergerac, le président vient poser la première pierre d'une usine de poudre. La ville devient progressivement un symbole du réarmement de la France. 1 milliard d'euros, c'est la facture des émeutes de l'été dernier et certaines communes se sentent abandonnées par leurs assureurs. Le Parlement polonais se penche sur le droit à l'avortement. Le pays est l'un des plus restrictifs d'Europe aujourd'hui et les soignants craignent même la prison.
Après ce journal, les ambiguïtés autour du projet de loi sur la fin de vie. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, comment la mécanique de la guerre s'est mise en place en Europe. L'historien et diplomate Maurizio Serra de l'Académie française publie Munich 1938, la paix impossible aux éditions Perrin. Il est avec nous en direct. Diane Berger, Bergerac devient la vitrine de l'économie de guerre française.
Après Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, venu il y a un peu moins de 2 semaines, autour aujourd'hui du président de la République. Emmanuel Macron doit y poser la première pierre de l'usine du fabricant de poudre Eurenco. Éric Kioch, la ville de Dordogne se transforme progressivement en symbole de la souveraineté industrielle française souhaitée par le chef de l'État.
Emmanuel Macron ne vient pas seul à Bergerac. Dans ses bagages, les représentants de Dassault, Naval Group, Thales ou encore Safran, un aréopage de grands décideurs de l'armement français pour affirmer une ambition, accélérer l'économie de guerre. Et le site d'Eurenco signe ce retour des capacités de production en France, se félicite l'Élysée. Une renaissance de l'armement français, symbolisée donc par ce site de Bergerac, démantelé en 2007, de retour en 2024. Il doit incarner l'accomplissement de la politique de réindustrialisation de l'État, avec une production de 1200 tonnes de poudre par an à partir de l'année prochaine. L'usine doit permettre à Nexter, fabricant de l'emblématique canon César, de fabriquer chaque année 96 000 obus, contribution non négligeable de la France aux objectifs européens fixés à 1 million de cartouches annuelles. Et avec des carnets de commandes pleins et 500 millions d'euros d'investissement prévus sur 2 ans, Eurenco veut multiplier par 10 sa production de poudre. Un fleuron français qu'Emmanuel Macron a également choisi pour réaffirmer l'ambition de l'Élysée en matière de dépenses militaires, souvent dans la mire de Bercy, pour réaliser des économies et gagner la bataille du déficit public.
Gabriel Attal, lui, se rend à Ottawa aujourd'hui. Le Premier ministre doit rencontrer son homologue canadien, Justin Trudeau. Au cœur des échanges, le sort du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le mois dernier, le Sénat français a voté contre sa ratification.
Radio Classique, il est 8h03. Les violences urbaines de l'été dernier ont coûté 1 milliard d'euros.
C'est la conclusion d'une commission d'enquête du Sénat. 11 jours de tension après la mort du jeune Naël à Nanterre, plus de 16 000 sinistres et dans près de 3 cas sur 10, ce sont les collectivités territoriales qui supportent la facture. Certes, les communes sont assurées, mais face au montant, les cotisations des assureurs augmentent quand les compagnies d'assurance décident pas carrément de radier les municipalités. Une situation qui inquiète les élus locaux, Charles Ducrot.
À M, près de Lille, dans le Nord, le bâtiment abritant France Travail a été pris pour cible pendant les émeutes, touché par un incendie. Le maire Francis Vercamer attend toujours une réponse de son assureur.
Nous attendons un rapport d'expertise sur la structure même du bâtiment. Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il est encore stable?
Et il ne cache pas son inquiétude.
Si le sinistre est important, imaginez qu'il y ait plusieurs millions de travaux à réaliser sur le bâtiment. Il y a un risque que la compagnie d'assurance revienne nous voir en disant « je ne veux plus de vous » ou augmente très fortement la franchise. Auquel cas, ça nous mettra en difficulté en cas de nouveau sinistre.
Pour éviter ces situations, la mission d'information sur les émeutes au Sénat réclame la mise en place d'un nouveau système assurantiel. Le sénateur LR Jean-Noël Buffet, rapporteur du texte.
Il faut évidemment éviter qu'une collectivité locale ne soit pas assurée. Dans ces conditions-là, il faut peut-être qu'on imagine un système type fonds de garantie, comme dans le cas de catastrophes naturelles. Donc là, il faut qu'on soit imaginatif là-dessus, pour pérenniser l'assurance des collectivités.
Contacter la Fédération France Assureurs n'exclut pas de proposer un régime d'assurance en partenariat avec l'État, mais imagine difficilement la mise en place d'un tel dispositif sans hausse généralisée et des cotisations.
Par ailleurs, le Sénat a aussi recensé près de 50 000 émeutiers, au sein desquels figurent un tiers de mineurs et 60% de primo-délinquants.
La bataille pour l'avortement franchit une nouvelle étape en Pologne.
Les débats parlementaires sur une libéralisation du recours à l'IVG s'ouvrent aujourd'hui dans le pays, portée par une coalition libérale pro-européenne arrivée en tête des dernières législatives, c'était en octobre. Aujourd'hui, le pays est l'un des plus restrictifs d'Europe sur le sujet, Anna Huot.
Actuellement, en Pologne, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste ou de mise en danger de la vie de la mère. Depuis 2020, il n'est même plus possible d'avorter en cas de malformation du fœtus. Toute personne qui aiderait d'ailleurs une femme à avorter risque la prison. Une situation très difficile, regrette Carolina Girdal, avocate des droits humains à Varsovie.
Beaucoup de femmes disent qu'elles ont peur de tomber enceinte. Car que va-t-il se passer si le fœtus est mal formé? Et si ma vie est en danger, est-ce que les médecins vont m'aider? Des femmes sont mortes à l'hôpital parce que les médecins attendaient la mort naturelle du fœtus. Ils avaient peur qu'en réalisant un avortement avant, ils seraient accusés de commettre un crime.
Cette militante n'espère rien des débats parlementaires pour changer la législation, car le texte a peu de chances d'aboutir, rappelle Dorota Dakowska, professeure de sciences politiques à Sciences Po Aix, spécialiste de l'Europe centrale et orientale.
Même si les partis de la coalition du gouvernement sont d'accord quand même qu'il faut libéraliser la législation sur l'avortement, ils ont aussi l'épée de Damoclès du président de la République, qui est un conservateur et qui peut émettre un veto sur chaque projet de loi qui ne lui convient pas.
Pour anticiper un éventuel veto, la coalition pourrait cependant agir par voie réglementaire, selon cette spécialiste, car le veto présidentiel ne s'applique pas au texte réglementaire.
Anna Huot, une frappe israélienne a tué 3 fils du chef du Hamas à Gaza. Des morts qui ne font pas fléchir le dirigeant du mouvement en pleine négociation sur un éventuel cessez-le-feu. Depuis Doha, où il est basé, Ismaïl Haniyeh assure nos exigences sont claires et nous n'y renoncerons pas. Fin de citation.
Le Covid semble derrière nous, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde.
C'est l'avertissement du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, successeur du conseil scientifique des années Covid. Il a passé au crible 35 maladies, une cinquantaine de risques infectieux et environnementaux. Et dans un avis qu'il vient de rendre, il prévient, le système de santé doit se préparer dès maintenant, car le prochain risque de pandémie pourrait bien venir à nouveau d'un virus respiratoire. Rémi Pfister.
Le scénario le plus probable, c'est un virus qui viendrait des animaux pour se diffuser ensuite par voie respiratoire. Il y a bien sûr la crainte d'un nouveau coronavirus, mais pour le virologue Bruno Lina, la grippe aviaire pourrait aussi accélérer sa mutation pour contaminer l'homme et devenir très pathogène.
L'histoire va se répéter. C'est un virus qui donne une maladie que l'on ne connaît pas, mais qui pourrait avoir un enjeu sanitaire majeur parce qu'il serait, par exemple, responsable d'infections graves chez les très jeunes enfants ou d'avoir une capacité de diffusion massive avec un recours hospitalier important.
Ces prochaines années, d'autres maladies pourraient également se diffuser à bas bruit à la faveur du réchauffement climatique. Ici, pas de transmission d'homme à homme, mais des pathogènes qui profiteraient d'un nouvel écosystème, explique l'immunologiste Brigitte Autran.
Ce sont les risques liés aux virus transmis par les moustiques, la dengue, mais aussi les inondations qui peuvent être responsables de dégorgement des plateformes d'épuration des eaux et de reversement dans des eaux non usées de pathogènes qui modifient les bactéries qui normalement devraient rester dans les eaux usées.
Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires prévient. La recherche doit s'intensifier sur de nouveaux antibiotiques par exemple. La préparation de la population à une nouvelle pandémie doit également faire partie intégrante des politiques publiques.
C'était un sujet de Rémi Pfister.
Dans le journal de 8h, signé Diane Berger. Merci Diane. On retrouve l'essentiel de l'actu à 8h30 avec Julie Drouin. Les choix tactiques du calendrier autour du projet de loi sur la fin de vie, décodé par Guillaume Tabar. C'est dans un instant. Puis nous recevons Maurizio Serra, l'académicien et historien qui publie Munich 1938, la paix impossible. Il sera bien sûr question de la Seconde Guerre mondiale et du parallèle à faire ou non avec 2024. Radio Classique 8h.